Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Qu'il est bon, 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 bon d'adorer le roi des rois. Qu'il est bon de le louer. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ce soir, on va voir un message court, mais qui va rester dans le flow de ce que nous a partagé la semaine dernière le pasteur Bruno. Le pasteur Bruno nous a posé une question importante pour chacun d'entre nous qui disait: qu'en est-il de l'état de ton âme? Est-ce que ton âme va bien? Vous rappelez de cette question? Vous rappelez de cette question? C'est une question très importante. Et pour rester dans le flow que le Saint-Esprit a donné à l'Église pour ce moment, j'aimerais vous rappeler que pour ton âme, pour que ton âme soit en bonne santé, il faut que tes pensées soient en bonne santé. La Bible dit dans Proverbes 23, au verset 7, que l'homme, il est comme les pensées de son âme. Regarde ton voisin et dis: tu es comme les pensées de ton âme. Donc l'âme, notre âme, l'état de notre âme est en lien avec l'état de nos pensées. Donc le message va être très simple, c'est un rappel pour certains d'entre nous, mais je crois que c'est un rappel nécessaire parce que la bataille pour notre âme se gagne d'abord dans la pensée. Et il ne faut pas oublier cela. Donc l'état de ton âme dépend cruellement aussi de l'état de ta pensée. Pas uniquement de ça, mais en grande partie, l'état de ton âme est lié à l'état de ta pensée. Et donc, le thème de ce soir s'appelle « S'armer de la bonne pensée ». La pensée est une arme. C'est important de comprendre ça. La pensée est une arme. Une arme que l'ennemi peut utiliser contre nous, mais une arme que Dieu peut nous donner pour utiliser contre lui et nous délivrer, nous. Donc la pensée n'est pas juste quelque chose comme ça qu'on pense. C'est important de comprendre que la pensée peut être une arme entre tes mains, entre les mains de Dieu et entre les mains de l'ennemi. Je priais cette semaine pour vous, l'Église, pour nous, et je me disais: Seigneur, mon cœur était triste parce que je pensais à certains d'entre vous qui galéraient, mais pas galéraient uniquement maintenant dans la saison. Bien revenu, Marina, est bon de te voir. Est-ce qu'on peut vraiment accueillir Marina? Il vient fraîchement d'Afrique du Sud, un produit frais. Tu comprends toujours le français? Et donc, il est important pour nous de comprendre que notre pensée, l'état de nos pensées est capital. Je priais pour l'Église et mon cœur attristé pour certains d'entre vous qui étaient souvent victimes des circonstances, victimes de la vie, et je me dis: Seigneur, pourquoi pas beaucoup de chrétiens marchent dans la victoire? On chante la victoire, on prie la victoire, on confesse la victoire, mais on vit dans la défaite. C'est pas bon. Il y a un souci. Dieu veut que nous soyons victorieux. Et puis en priant, la pensée qui vient dans mon cœur est celle-ci, c'est que souvent on dit qu'il y a des gens, lorsqu'on dit: tu es croyant toi, il dit: oui, je suis croyant mais non pratiquant. J'ai entendu ça. Je suis croyant mais non pratiquant, c'est un non-sens. La foi, croire, c'est agir. Donc tu ne peux pas dire: je crois et j'agis pas, c'est en fin de compte tu ne crois pas. Mais Dieu me disait: le problème n'est pas les croyants non pratiquants, le problème c'est les pratiquants non croyants. C'est ça, qui vient à l'église, qui prie, qui écoute la parole de Dieu, mais qui n'a pas la foi. Et c'est ça le problème. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc il pratique mais ne croit pas. C'est pas bon non plus. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir la victoire. Mais pour ça, il faut bien sûr croire en sa parole et comprendre que notre défaite commence d'abord dans notre pensée. Ça, c'est très important. Vous savez ce passage connu dans Osée 4:6 qui dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce verset est puissant. Car il est écrit ici que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas parce que Satan est trop fort. C'est pas écrit parce que Satan est trop fort. C'est parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne connaît pas. Donc, il pratique, vient à l'église, mais il n'a pas la victoire. Ça peut arriver de subir quelques défaites, et c'est des moments difficiles. Mais quand c'est redondant, toujours comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là que le Seigneur mettait sur mon cœur, c'est parce que les pensées sont à revoir. La personne est sauvée, elle aime Jésus, elle va au ciel, elle prie, c'est super. Vraiment, elle a la foi pour être sauvée, mais la pensée n'est pas renouvelée. Et la pensée est toujours victime des circonstances, victime de l'ennemi, et elle n'arrive jamais à voir cette connaissance spirituelle qui l'a fait triompher, et elle est détruite. Et c'est toujours dur, et c'est toujours difficile. Et le combat, la victoire qu'on doit obtenir commence d'abord dans notre pensée. C'est primordial de comprendre cela. Vous savez qu'avant de connaître Dieu, la Bible dit qu'on était ennemis de Dieu à cause de nos pensées. Et parfois, même si on est sauvé parce qu'on croit en Jésus, nos pensées font en sorte qu'on n'est pas toujours vraiment tout le temps amis avec Dieu. Et dans Éphésiens 4, verset 17, il écrit ceci à notre sujet. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Il s'adresse aux chrétiens. Et dit, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quand il y a trop d'ignorance, on a une pensée qui est aussi vaine que celle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'il est très, très, très important de faire attention à nos pensées. Notre première limite, c'est dans notre pensée. Si tu veux être riche et que tout le temps tu dis « je suis pauvre et je ne ferai jamais rien de bon », tu ne seras pas riche. Si tu veux t'en sortir, avoir la victoire et tout le temps t'es en train de dire « je suis un moins criant, une petite sauterelle aux yeux de l'ennemi, l'ennemi même pas », eh bien tu ne seras pas victorieux. Si tu dis « oui, je suis fort, mais tu penses de toi-même de ma façon médiocre », tu ne pourras pas marcher dans la victoire. C'est ça le problème. Et nous, il faut faire attention à l'état de nos pensées. Exemple, tu peux dire « franchement, je veux aimer les gens, mais personne ne m'aime. » Qui a déjà eu cette pensée que personne ne l'aime? Qui est menteur? Qui s'y pense? Qui s'y pense? Qui s'y a des pensées? Levez la main, vous avez des pensées. Qui ici a au moins une fois par jour une mauvaise pensée? Levez la main. Ah, vous êtes normal alors? Ah bah, vous êtes normal. Vous êtes dans le bon lieu ce soir? C'est bien? Si tu penses, automatiquement, tu as sûrement des mauvaises pensées tous les jours. Si par exemple, tu veux aimer les gens et en même tout le temps, tu penses que tu n'es pas aimé, tu es mal aimé. Mal aimé, je suis le mal aimé. La 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 la. Si tu es comme ce gars-là qui chante qu'il est mal aimé, il se pensait tellement mal aimé, pourtant il y a plein de gens qui l'aimaient, que malheureusement, on savait comment il a fini. Le gars se sentait mal aimé, donc il ne s'aimait pas. Personne ne m'aime, personne ne m'aime, si personne ne m'aime, je ne peux pas être aimé. Et ici, beaucoup parmi vous, vous pensez parfois comme ça. Vous ne connaissez même pas la personne, et vous ne dites même pas à elle. Donc, le pasteur lui passe, pas dis-moi bonjour, il n'aime pas moi, lui. Et ça, c'est le problème. C'est que on a une fausse pensée. Je suis victorieux, personne n'y aime à moi. Et c'est ça où il faut vraiment faire attention. Je viens à l'église pourtant. J'écoute la parole pourtant. Mais la pensée totalement défaitiste. La pensée est déjà dans la défaite avant de commencer le combat. C'est impossible d'avoir la victoire comme ça. Pas possible, chers frères et sœurs bien-aimés. C'est pour ça qu'il nous faut faire attention à l'état de nos pensées. Si on veut marcher dans la victoire de la foi, c'est très important. On a vu ça à l'école biblique cette année, mais j'aimerais partager pour ceux qui ne sont pas encore à l'école biblique, je vous encourage vraiment à faire l'école biblique. Vous savez, le mot diable est composé de deux mots grecs, du mot dia et du mot bolos, qui a donné le mot diabolos. Et le mot dia signifie passer au travers, et le mot bolos signifie en réalité frapper constamment de manière répétitive. En fin de compte, dans les noms de l'ennemi, de Satan, de l'accusateur, des frères, etc., il y a toujours un indice sur quel type de personnage il est. Et le mot diable nous montre que c'est quelqu'un qui cherche à percer au travers pour, en répétant constamment les mêmes choses. Mais il cherche à passer au travers pour avoir accès quelque part en nous. Éphésiens 4, verset 7 nous dit « Ne donnez pas accès au diable. » 4, verset 7. « Ne donnez pas accès au diable. » Le mot « accès » ici parle d'une place géographique, puisque le mot grec de ce mot accès, c'est le mot topos, qui a donné en français le mot topographie, lieu géographique. Et ce lieu-là, qu'il cherche à conquérir en frappant de manière constante et répétitive pour passer au travers et s'installer, c'est notre pensée. Il cherche à s'installer dans notre pensée. 2 Corinthiens 11, verset 3 nous dit ceci. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Le serpent, par sa ruse, cherche à corrompre. Il twiste la vérité. Il twiste la pensée. Il va faire en sorte que tu pense de manière à ce que tu te sentes victime ou que tu te sentes mal aimé ou que tu te sentes défait par les circonstances et où tu sens que les gens ont un problème contre toi. Et le problème, c'est que la pensée va commencer à se corrompre, il va nous séduire, il va nous tromper et on va commencer à avoir un mauvais feeling, une mauvaise sensation. On va commencer à regarder l'autre et les autres comme nous aimant pas, comme faisant pas attention à nous. Il essaie de faire naître des querelles, il essaie de faire naître des rivalités, il essaie de faire naître des choses. La pensée est un véhicule qui transporte quelque chose. Si c'est une pensée juste, celle de Christ, elle transporte de bonnes choses comme la paix, la joie, la restauration, l'humilité. Si c'est une pensée qui vient de l'ennemi, elle transporte des mauvaises choses comme l'amertume, le non-pardon, l'orgueil, la haine, les querelles, les rivalités, les animosités, les jalousies. Et ça détruit les relations. Et c'est le problème. C'est que Satan, il a la même méthode, la même technique. C'est qu'il veut absolument obtenir une place dans notre pensée et ériger une forteresse qui est une fausse façon de penser, un faux raisonnement, nous dit 2 Corinthiens 10. Et une fois qu'il s'est installé et qu'il sait qu'on pense de manière erronée, qu'on a une façon erronée de penser, il a gagné. Est-ce que vous savez qu'on voit par notre pensée? On voit par notre pensée. Si je te dis voiture, là en ce moment, si je te dis Ferrari, tu vois dans ton esprit la Ferrari. Si je te dis Schmilstromflumsch, est-ce que tu as vu? Non, ce que tu sais pas c'est quoi. Moi non plus. Mais si tu sais, c'est quoi? Tu vois dans ton esprit. Quand on pense, on voit. Et ce que l'ennemi cherche, il cherche à obscurcir notre vision spirituelle. Il cherche à la tromper, à la déformer. C'est ça le souci. Il veut nous rendre incrédules par nos pensées. Il veut qu'on voit que même avec Dieu, ça ne marchera pas. Même Dieu dit qu'il t'aime, mais ça ne marchera pas. Il dit, écoute, tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, et tu viens à une réunion de prière, mais ça ne marchera pas. Si tu veux te faire croire que tes problèmes de finances vont perdurer, ça ne marchera pas. Que tes problèmes relationnels vont perdurer, ça ne marchera pas. Et il te dit, mais regarde comment tu es mauvais, ça ne marchera pas avec un bouc comme toi. Et combien d'entre nous, malheureusement, on croit au mensonge de l'ennemi. Quand l'ennemi dit tu es mauvais, télébrété. Tu sais, en ce moment, un pasteur, je suis attaqué dans mes pensées. T'es l'ennemi, me met des pensées comme je suis mauvais, comme je suis pas bien, comme je vais pas avoir la victoire, comme vraiment les choses vont mal aller. Et tu... Eh bien, je dis, mais est-ce que tu connais que c'est l'ennemi qui a mis ça dans tes pensées? Oui. Est-ce que tu sais qu'il est menteur? Il est menteur. Il est le père du mensonge. Il ne vient pas créer rien, mais le seul affaire qu'il a créé, c'est le mensonge. C'est pour ça qu'il est le père du mensonge. Donc si tu sais que ça vient de l'ennemi, ben crois pas. C'est tout. Déjà, ça va être mieux. Parce que si tu crois à son mensonge, tu donnes de la puissance à son mensonge. L'ennemi n'a pas de puissance, mais si tu te fais croire sa bêtise et que toi tu crois en sa bêtise, alors tu lui donnes autorité sur toi. Et tu as en puissance un ennemi qui a perdu sa puissance par la puissance de la croix. Et tu t'accordes avec lui pour ne pas réussir. Et là, les pensées deviennent incrédules. C'est ce qu'il cherche. Il obscurcit notre pensée et nous remplit d'inquiétude. Il nous remplit d'anxiété. Il cherche à ce qu'on marche par la vue et surtout pas par la foi. Il cherche à ce qu'on regarde aux circonstances. Il cherche à ce qu'on écoute Freedom. Il cherche à ce qu'on écoute surtout le peu de mauvaises informations afin qu'on soit totalement vulnérable et fragile. Et quand tu dis, c'est dur, la vie chrétienne est dure. Et quand tu pêches, c'est pire. Il arrive avec la condamnation. Il arrive avec la culpabilité. Est-ce que vous savez que, en tout cas pour moi, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, que j'étais pécheur, mon péché ne me tracassait pas? Est-ce que vous savez ça? Du coup, quand tu es chrétien, tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus envie de pécher, mais le pire, tu pèches, et le pire, c'est que le péché te tracasse maintenant, mais avant, ne te tracassait pas. Il crie. Avant, tu pèches, tu t'en fiches. Aujourd'hui, tu deviens chrétien, tu pèches encore, mais tu t'en fiches plus. On aurait aimé plus pécher du tout. Mais malheureusement, on pêche. Rien qu'en pensée, déjà, on est cuit. Et là, l'ennemi vient, il prend la pensée et il nous rend coupable. Et il nous rend coupable. Et il martèle dans notre tête. Et il est le père du mensonge. Et il nous vide de la foi. Il met l'anxiété. Et il met l'incrédulité. Et il met l'inquiétude. Et il nous fait questionner. Et il nous fait douter. De est-ce que Dieu nous aime vraiment? Si t'aimes, pourquoi tu es dans tant de galères pendant autant de temps? Et il nous fait croire une pensée fausse. Et quand on croit la pensée fausse, on croit que c'est nous, ou que c'est Dieu qui nous a donné, ou que c'est lui. Et après, on blâme Dieu, ou que c'est lui. T'es, c'est un sirop. Et il nous faut donc être prudents sur comment l'ennemi nous tente et comment il aveugle notre pensée. Et il veut empoisonner, envenimer les relations. Il veut détruire les familles. Il veut détruire les couples. Il veut détruire l'unité. Surtout quand il sait que tu as une relation qui peut t'empuissancer, t'aider, te fortifier, te restaurer, te consoler, il va tout faire pour essayer de te mettre dans la tête des choses erronées contre cette relation-là. Parce que si tu t'associes, l'association amène la puissance. Si tu t'associes à la vérité et que tu crois en elle, tu donnes de la puissance à la vérité qui est Christ. Si tu t'associes au mensonge, tu donnes de la puissance au mensonge. Si deux ou trois sont réunis ou s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, si tu t'accordes avec le mensonge, tu donnes de la puissance au mensonge. Et c'est ça le danger. Mais comme je l'ai dit à l'école biblique, je redis ce soir. La bonne nouvelle, c'est que pas toutes nos pensées sont nos pensées. Amen aurait été bien. Pas toutes nos pensées sont nos pensées. Si tu crois que toutes tes pensées sont les tiennes et que tu gobes ça, tu fais erreur. À un moment donné, Jésus dit à Pierre, je vais être crucifié. Pierre lui dit, non Seigneur, même s'il ne s'appelait pas à Dieu, ce n'est pas grave. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan, Matthieu 16, verset 23. Jésus lui dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est clair. Là, Jésus parle à Pierre, et lui parle, il lui dit Satan. Pierre dit, qui parle? Où c'est il est? Il dit pas, arrière de moi Pierre, car tes pensées sont les pensées de Satan. Il dit pas ça. Il dit, arrière de moi Satan à Pierre. Et il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Là, Pierre avait le choix, soit de dire, t'es bébête, pourquoi j'ai dit ça? Et de culpabiliser, ou de dire, oh, ok, là j'ai fait une erreur, mais je me suis rendu compte d'une chose puissante, c'est que pas toutes mes pensées sont mes pensées. L'ennemi arrive même à me faire dire des choses qui ne viennent pas de moi. Donc je ne vais pas gober ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand l'ennemi... C'est très facile quand l'ennemi dit, par exemple, suicide-toi. Finis avec la vie. Arrête avec les relations qui te rapprochent de Dieu. Quand il tord un peu la vérité, tu crois qu'il t'aime? Oui, mais s'il t'aime, regarde les circonstances. S'il t'aime, regarde ce qui a été dit dans telle discussion il y a un mois. Dans telle discussion il y a deux mois. Les choses n'ont pas été faites. Il t'aime, mais il ne tient pas sa parole. Et là, on commence à dire, c'est vrai, seulement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on commence à dire, c'est vrai, un truc faux. Et là, il twist, il tord la vérité. Et on commence à lui donner notre accord. Et on lui donne de la puissance sur nous. Et du coup, on commence à devenir amer. Et comme les pensées diaboliques transportent ce venin d'amertume, de culpabilité, de querelle, d'animosité, on commence à se séparer de certaines relations. Oh là là, non, 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 non. Hein. Laisse tomber, hein. M'énerve un peu trop, lui, elle, tout ça. Ouf. Et il faut faire attention. Donc par rapport au fruit de la pensée, ce qu'elle produit dans notre comportement, l'homme est-elle les pensées de son âme? Comment va ton âme? Surveille des pensées. C'est ça qui est important. La bonne nouvelle, c'est pas toutes tes pensées sont tes pensées. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es le seul qui peut confronter tes pensées. Voilà. Chacun d'entre nous doit prendre la responsabilité de confronter nos propres pensées. Je ne suis pas dans la tête de mon épouse pour savoir comment elle pense. C'est j'aurais aimé. Hein? Qu'est-ce qu'elle pense là? Chacun d'entre nous, on est responsable de confronter notre propre pensée. On ne peut pas attendre sur les autres. Il faut qu'on s'en charge. Devine jusqu'à quand il faudra prendre la responsabilité de notre pensée. Jusqu'à quand? Ouais, jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Même jusqu'à après, on ne sera plus tenté comme ça. Mais tant qu'on est sur cette terre, tous les jours. Regarde ton voisin, dis-lui, tous les jours. Je sais que ça ne nous réjouit pas. Je sais qu'on dit tous les jours, qu'on est pensé, on ne dit pas, waouh, amen, alléluia, superbe. Mais c'est la vérité. Tous les jours, il nous faudra confronter nos pensées. Constamment. Constamment. Et c'est notre responsabilité. Tout au long de notre vie. Romains 8, verset 5 nous dit ceci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. En fonction des choses que tu t'affectionnes, eh ben, automatiquement, la production de cette chose va se manifester. Et il nous faut donc nous affectionner des choses de l'esprit pour arriver à penser comme l'esprit pense. Et c'est ce que Dieu veut pour que nous soyons victorieux. Donc, pour terminer rapidement le message de ce soir, on va voir comment, de manière pratique, s'affectionner des choses de l'esprit. Vous êtes d'accord? Juste quatre points très simples, basiques, mais pour nous apprendre, vous et moi, à être responsables du champ de bataille, de la guerre qu'est la pensée. Oui, il y a des pensées qui viennent de l'ennemi, pas toutes viennent de l'ennemi, certaines viennent de notre propre cœur, mais aussi nous avons la pensée de Christ. Et il nous faut, tous les jours, comprendre que pour être victorieux, la victoire se gagne d'abord dans la pensée. C'est crucial. Très important. Simple, mais important. Dans la pratique, ceux et celles qui vont s'attacher et s'efforcer à être victorieux dans leur pensée vont voir leur vie changer. Car pour changer de vie, il faut changer ta façon de penser. Pour exploser les limites qui te retiennent, il faut changer ta façon de penser. Notre première limite est dans notre pensée. Pour changer, il faut penser autrement. C'est pour ça que Dieu nous a donné la pensée de Christ, pour penser comme Dieu pense. Premièrement, comment changer notre façon de penser de manière efficace ? Pour ne pas penser comme l'ennemi pense, mais comme Dieu pense. Philippiens 4:16 nous donne la réponse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, premièrement, comment garder une juste et bonne façon de penser? Tout ça par la prière. Ici, la Bible ne dit pas, quand vous avez des soucis, faites toutes sortes de prières et faites monter vos besoins à Dieu par toutes sortes de prières, de supplications, d'actions de grâce, et Dieu vous répondra avec succès. Et vous aurez une réponse à votre prière. Si tu pries parce que tu as des besoins de finances, fais monter des supplications vers Dieu, il va te répondre à ton besoin de finances. C'est pas ça qui est écrit. Il te dit, si tu as un besoin quelconque, prie. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que si tu pries et que tu fais monter devant lui tes inquiétudes, alors la paix de Dieu, le prince de paix, Jésus-Christ, gardera ton cœur et tes pensées en lui. En quoi? En la paix. Donc souvent, la première façon de garder nos pensées en Christ, c'est de prier. Mais souvent, on prie et on garde nos inquiétudes. On ne lui donne pas. On lui partage, mais après on garde. Et on n'a pas la paix. Parce que on attend une réponse à nos prières. Écoute bien ceci. Dieu, souvent, répond à nos prières. Mais pas à notre façon. À sa façon. Et quand il le veut. C'est ça notre souci. C'est que nous on aimerait, c'est quand on veut et à notre manière. Mais lui répond quand il veut et à sa manière. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la paix. Pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Premièrement donc, comment s'affectionner des choses de l'esprit? Par la prière. Deuxièmement, il faut être renouvelé par sa parole. C'est simple, mais je vous garantis, si aujourd'hui vous apprenez, si tous ici dans ce lieu, tout le monde, si vous voyez, si on avait plus de pensées de Christ dans notre tête, là, si on pensait plus comme Jésus dans n'importe quelle situation conflictuelle ou difficile qu'on rencontre en ce moment même, si on pensait comme lui, un, déjà on aurait plus de paix. Et deux, on aurait déjà plus de solutions. Et plus de victoires. Plus de victoires en changeant juste notre façon de penser. Et donc, il nous faut être renouvelés dans notre façon de penser. Romains 12, verset 2, version Sommer nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Renouveler sa pensée pour être transformé. Le passage d'Éphésiens 4 n'affiche pas, s'il te plaît, retire-le maintenant. Je vais le lire différemment. Il y a trois versets, mais je vais lire le premier verset et le dernier verset. Éphésiens 4, verset 22 nous dit « Comment être comme Christ ?» Il est écrit ceci. « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. » Éphésiens 4, verset 22. Éphésiens 4, verset 24. « Et de vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie juste, sainte, que produit la vérité. » Le verset 22 dit « Pour être comme Jésus, il faut nous dépouiller de l'ancienne nature. » Le verset 24 dit « Pour être comme Jésus, il faut nous renouveler avec la nouvelle nature. » Mais que dit le verset 23 ? Écoutez bien ce que dit le verset 23, qui fait le lien, le pont entre les deux. Le verset 23 dit ceci « À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. » Tu peux afficher maintenant. À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau. Pour être transformé, pour revêtir l'homme nouveau, il nous faut être renouvelé par le changement de ce qui oriente notre pensée. Qu'est-ce qui oriente ta pensée ? Les soucis ? Les circonstances ? Ta situation ? Ou la parole de Dieu ? La foi ? L'espérance, ses promesses, la paix de Dieu, la joie. Qu'est-ce qui oriente ta pensée? Donc, les pensées que nous avons ont la puissance pour nous transformer, pour devenir meilleurs ou pires. Il y a la puissance, une puissance transformatrice dans la pensée. Donc, la pensée, la façon dont on pense, nous indique ce qu'on va devenir. Donc si tu penses constamment que tu n'y arriveras jamais, eh bien devine quoi ? Tu n'y arriveras pas. Et pourtant on vient à l'église, on prie, on aime Jésus, on est sauvé. Mais si tu penses que tu peux y arriver par sa grâce, tu vas y arriver. Et c'est le cœur de Dieu. On a chanté tout à l'heure, Émilie nous conduisait dans la louange, elle disait des temps de fraîcheur. Mais le rafraîchissement revient aussi par un renouvellement de notre pensée. La Bible dit repentez-vous, c'est-à-dire pensez autrement, pour que des temps de fraîcheur arrivent. C'est ce que la Bible dit. Elle dit repentez-vous, c'est-à-dire pensez autrement. Tu veux te décharger parce que tu es chargé, tu es fatigué, tu croules sous un fardeau lourd. Le fardeau est lourd parce que ta façon de penser est erronée. Je discutais avec un précieux frère dans la semaine et il dit « Je suis fatigué, chargé. » Et il m'explique son cœur et je dis « Mais tu es chargé, fatigué parce que tu penses mal. » Tu es chargé, fatigué parce que c'est ta façon de penser qui te met un poids sur tes épaules. Ce n'est pas Christ. Si tu penses comme Christ, ton poids va être différent. C'est pour ça que je vous mets tous au défi ici dans ce lieu. Si tu penses autrement, dès ce soir, pour chercher la pensée de Christ, tu verras que des temps de fraîcheur vont arriver plus rapidement que tu le crois. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ça, observez mes commandements, prenez mon joug. C'est penser comme je pense. Pourquoi nous dit recevez ces enseignements et de les observer? C'est pour penser comme il a enseigné, afin de pratiquer ce qu'il a enseigné, et que sa pensée devienne notre pensée, sa pensée devienne nos actions, et alors, à ce moment-là, le fardeau est léger. Amen. Troisième point, pour s'affectionner des choses spirituelles, on a vu un... C'était la prière. Deux, se renouveler, bien sûr, par la parole. Trois, se nourrir de la parole. C'est très important. Il faut être nourri, il faut manger la parole. Il faut comprendre une chose cruciale. Regarde ton voisin et dis-lui l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est crucial. Deutéronome 8, 3 nous dit ceci. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, c'est simple. Si vous et moi, on ne comprend pas juste ce simple verset, on est cuit, expiré cuit. Pour l'état de notre âme, c'est cuit. Parce que notre âme doit être nourrie par la parole de Dieu. Si on veut que nos pensées soient fortifiées, il faut se renouveler, mais il faut se renouveler en se nourrissant de la parole de Dieu. La parole est une nourriture. Et Jésus est la parole faite chair. C'est Jésus notre nourriture spirituelle. Quelqu'un a dit, tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Sportifs, ils s'y connaissent. Bon, ils mangent quand même parfois orgueil saucisse. Mais si tu manges un tas de gratons, c'est bon les gratons. Mais qu'après tu veux faire le grand raid, tu vas tomber raide. Pourquoi ? Parce que le corps va prendre ce que tu lui donnes comme nourriture pour le transformer en énergie. Mais si tu lui donnes à chaque fois une mauvaise nourriture, ça va être dur. C'est physique. Mais spirituellement, c'est la même chose. Il faut être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. On avait déjà vu ça aussi, il y a quelques messages de cela. Pas uniquement dans notre intelligence, dans l'esprit de notre intelligence. En nous nourrissant de la parole de Dieu, il faut manger Jésus. C'est Jésus le pain du ciel. La manne dans Exode est le faux pain. Le vrai pain du ciel, c'est Jésus, pas la manne. C'est Jésus même qui le dit dans Jean 6. On va le lire ensemble. Jean 6, verset 48 nous dit ceci. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Tonnerre de pain, c'est pas celui-là qui parle. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. » C'est celui-là qu'il parle. Il parle d'un pain qui ne va pas te détruire, un pain qui va te protéger, un pain qui va te préserver, un pain qui va te garder. C'est ce pain-là qu'il parle. Et il dit, voici ce qu'il dit, « Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Quand il parle de la vie éternelle, comprenez bien ceci, il ne parle pas d'une vie sans fin uniquement. Il parle de la vie qui n'est pas de ce monde. Il parle d'une vie qui est en dehors du monde. La vie éternelle, c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de Christ qui est venu dans le monde et qui vient en nous. Il dit, si quelqu'un mange ce pain-là, Jésus, alors cette vie supérieure, cette vie d'une autre réalité, cette vie qu'on dit éternelle dans la parole de Dieu, sera sa portion. Et cette vie est au-dessus. Cette vie domine. Cette vie n'est pas dominée par les circonstances. Cette vie est au-dessus des circonstances. Cette vie est remplie de vie. Cette vie est remplie de joie. Et cette vie s'appelle Jésus-Christ. Le pain du ciel. Voilà la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus dit ici. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant, « Comment peux-tu nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Jésus ici prend le temps de dire, « Hé, mange-moi !» Jésus dit, tu veux la vraie vie, mange-le. Mange Jésus. Hein? C'est simple, nous devons apprendre à et découvrir comment manger et boire Jésus. Si nous voulons cette vie surnaturelle, cette vie d'en haut. Nous devons apprendre comment spirituellement donc manger Jésus, afin que toutes les cellules de notre corps, de notre âme, soient dynamisées, empuissancées par Jésus lui-même. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on ait soif de lui, qu'on mange. On ait soif de sa parole. Mais on ait soif de sa parole pour entendre sa voix. Il faut entendre sa voix. Je parle cette parole que quand chaque jour, c'est, je me lève à chaque jour. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas bien la journée. Il faut que j'entende sa parole. Il faut que la parole, quand je l'entends, elle fait « Pah !» C'est un clash qui me réveille, je dis « Yes, yes, yes !» Et si, et des fois, ça arrive rapidement. Mais dans, il y a des situations, des circonstances, il faut aller batailler pendant des heures, dans la prière, dans la lecture de la parole. Tu écoutes des messages, tu lis jusqu'à ce que cette parole, quand elle arrive, tu sais que tu sais que tu sais que tu as entendu sa voix. Comment? Parce que les doutes fuient. Parce que l'inquiétude part. Qu'il te donne ça, ça fait boum. Et là, tu es nourri. Et là, tu es en puissance. Et là, ta façon de penser fait fiou. Et là, tu dis, yes, je ne voyais pas les choses comme ça. Mais en lisant sa parole, j'ai entendu sa voix. Mes brebis connaissent ma voix, dit Dieu. Elle n'a pas dit, les brebis connaissent ma parole, uniquement. Mes brebis connaissent ma voix. Tu dis la parole pour entendre sa voix. Et quand tu entends sa voix, elle te fait un effet de boisson énergétique pour ton âme. Et tu vois, oh, c'est bon là, wouhou! Là, tu montes le problème comme ça, Seigneur. Les dieux, regarde le bout de sommeil, ne vois pas le bout. Et quand tu pries, tu as la parole de Dieu, tu fais, chut, tu te transformes d'un coup. Si tu as bu un truc de dopage, là, tu vois, tu fais, oh, là, c'est bon là. Là, c'est bon là. Et bien, tu cours. Parce que la parole te donne la foi, te donne l'espérance, te donne la paix. Et le quatrième point, c'est bien sûr l'obéissance de la foi. Une fois que tu entends la parole, obéis. Acte 15, verset 9 nous dit ceci. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous ayant purifié leur cœur par la foi. Matthieu 15, 19 nous dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc d'accord, une partie c'est l'ennemi, une partie c'est notre cœur. Comment purifier notre cœur? Verset précédent, par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Donc quand tu te tiens dans la foi, tu comprends que là ton cœur est à nouveau purifié. Parce que tu refais confiance en Dieu. Tu comprends qu'il est un juste juge. Tu te maintiens dans la paix. La paix de Christ est dans ton cœur. Les situations n'ont pas encore changé. Les circonstances n'ont pas encore changé. Mais la paix de Dieu est là. Et tu attends. Et tu persévères dans la foi. Et tu patientes. Et tu patientes. Et tu patientes. Et la foi a purifié ton cœur. Le doute ne peut pas rentrer. Et le mensonge ne peut pas rentrer. L'anxiété ne peut pas rentrer. Tu les as expulsés parce que tu t'es renouvelé et tu t'es nourri de la parole de Dieu. Et ton âme a été dynamisée par sa parole qui t'a énergisé. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc quand les choses vont mal, cherche la parole. Obéis à la parole, confesse la parole. Dis que ses promesses vont se réaliser dans ta vie. Si tu es célibataire, que ça fait des années que tu cherches quelqu'un, dis pas. Ça fait des années. Mais un jour, mon prince viendra. Un jour, j'ai reçu une prophétie, mais tu vois, ça fait longtemps. Aujourd'hui, comme Sarah, mon corps dépérit. Dis pas ça. Dis oui, je rencontrerai quelqu'un. Dis, oh, avec Dieu, j'ai l'embarras du choix. Je vais choisir le plus top pour moi. Surtout si tu es un gars, à la réunion, trois femmes pour un gars, question de casser la tête. Moi, je suis tellement généreux, je n'ai pris qu'une, j'ai donné deux autres à des autres. Dis pas ça, confesse. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 16, car nous avons la pensée de Christ. 1 Pierre 4, 1 nous dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. La pensée est une arme que tu peux utiliser contre l'ennemi, au lieu que l'ennemi utilise sa pensée contre toi et moi. Comprends que la pensée est une arme, c'est un champ de bataille, c'est un combat. L'état de ton âme, la qualité de ta vie dépend cruellement de ta pensée. Si tu es trop pessimiste et défaitiste, et ça depuis des années, ça va être chaud. Tu viens à l'église, mais tu ne seras pas dans la victoire. Et pourtant, Dieu veut la victoire pour toi et pour moi. Il a payé le prix. Parce que tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Il dit, mais j'ai déjà tout accompli. Seigneur, tu as tout accompli, mais moi, je suis dans la difficulté. Il dit, oui, j'ai tout accompli, mais je n'ai pas tout accompli pour que tu n'accomplisses rien. Il dit, j'ai tout accompli pour que tu puisses accomplir à ton tour ce que Dieu veut. Et donc maintenant, je ne veux pas uniquement agir pour toi, je veux agir au travers de toi. Emmanuel, il s'appelle Dieu avec nous. Dieu avec nous, on le laisse avec nous. Et il ne veut pas uniquement être avec nous, il veut agir au travers de nous. C'est pour ça qu'il est avec nous, pas pour faire joli. Il n'est pas avec nous pour la décoration. Il est avec nous parce qu'il veut détruire les œuvres du diable. Au travers de toi et au travers de moi. Au travers de son église, c'est le cœur de Dieu. Je terminerai juste là-dessus. Tu peux sélectionner tes pensées. Hein? On a fait « Ouh !» Je comprends pour certains, là, ça peut être difficile en ce moment, mais ne perds pas courage. C'est possible de sélectionner ses pensées. C'est possible de se discipliner pour avoir un mode de vie qui pense de manière intentionnelle. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de mauvaise pensée, ça veut dire qu'elle va arriver, au lieu de laisser la mauvaise pensée s'enraciner, tu vas très rapidement être discipliné pour la chasser. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça signifie que c'est possible de penser à ce qui est vertueux, honorable, digne de louange. C'est possible. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de mauvaises pensées, mais tu ne cultiveras pas les mauvaises pensées. Tu vas t'affectionner des pensées d'en haut. Et c'est le cœur de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, tu peux avoir autorité sur ta pensée.